Bonjour à tous, vous allez bien ce matin?
Oui.
Voilà, Dieu sait bien, le soleil est revenu. On se voyait au mois de novembre. C'était le Nord qui descendait à nous. On l'a chassé au nom de Jésus. On veut le beau temps. On veut ce qui est beau. Amen. Ce qui est louable, ce qui est honorable. Et puis tant pis, si ça ne plaît pas à Dominique Melchior, on s'en fout. C'est le seul qui m'a écrit une lettre d'insulte méchante au sujet de la prédication que j'ai faite la dernière fois. Voilà. Dieu te bénisse, mon pauvre frère. Et quand tu auras fait le dixième de ce que notre communauté fait, ben, tu pourras peut-être la ramener. Voilà, Melchior. Bon, il fallait que je le dise parce que ça m'énerve des cornichons comme ça. Voilà. On va dire la parole de Dieu dans 2 Chroniques 20-20. Amen. 2 Chroniques, je vous lirai son mail, vous allez voir, c'est très différent. C'est le genre de chrétiens qui se prennent pour euros et puis qui insultent les serviteurs de Dieu. Ça devenait rare, il y en a de moins en moins. Et là, il y en a un qui s'est réveillé là d'un coup. 2 Chroniques 20-20. S'il continue à m'embêter, je vais me donner son mail sur Internet, comme ça tout le monde pourra lui écrire et ça lui fera du bien. Simplement, il s'appelle Dominique Melchior. Je ne dis pas encore s'il est sur Orange ou sur Yahoo, mais s'il me réécrit encore une lettre d'insulte méchante comme ça, je le fais, franchement. Et voilà. On continue, on lit. 2 Chroniques 20-20. Ayez confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Vous croyez ça? Voilà. C'est quand même terrible. Le peuple de Dieu doit croire en Dieu pour être affermi et croire dans ses prophètes pour réussir. C'est-à-dire qu'on peut être affermi et raté. Qui est-ce qui rate? Ceux qui font confiance en Dieu, mais qui ne font pas confiance à ses prophètes. Mais faire confiance à ses prophètes, c'est pas faire confiance aux prophètes morts, c'est faire confiance aux prophètes vivants. Bien sûr qu'on fait confiance aux prophètes morts, la preuve, c'est qu'on vient de lire un texte écrit par un prophète mort. Mais il y a des prophètes vivants aujourd'hui. Est-ce que vous les écoutez? Si par exemple vous venez sur Révélation Bible, un prophète c'est quoi? C'est quelqu'un qui apporte la parole de Dieu. Si vous venez sur Révélation Bible et que vous ne croyez pas que je suis un serviteur de Dieu, vous êtes en train de perdre du temps et vous aurez des comptes à rendre à Dieu pour votre perte de temps. Donc, allez écouter quelqu'un d'autre. Par exemple, Claudine Nierski, hein, ou des gens comme ça, beaucoup plus intelligents que moi. Il faut que vous sachiez qui est serviteur de Dieu, qui ne l'est pas. Vous faites le choix, parce qu'il nous est donné un certain laps de temps et on n'a pas à le gâcher. Moi, je ne gâche pas mon temps à aller écouter des clowns. J'écoute les serviteurs de Dieu, éprouvés, et qui réussissent, qui ont des résultats. Pas les autres, ceux qui n'ont rien, j'écoute pas. Pardon, mais j'écoute pas. Pourquoi j'écoute pas? Parce que j'ai pas de temps à perdre. Et si vous avez du temps à perdre, c'est génial, vous êtes des créatures... Ça me dépasse, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc, vous devez faire confiance à Dieu pour être affermi. Qui ne veut pas être affermi? Tout le monde veut être affermi. Mais vous devez faire confiance à ses prophètes, à ses porte-paroles pour réussir. Vous voulez réussir? Faites confiance à ceux que vous croyez être des prophètes. Comment est-ce qu'on reconnaît un prophète? Ben, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Voilà. Quand il prie, ben, il est exaucé. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça. Il y a une manifestation surnaturelle dans la vie des prophètes. Moi, c'est à ça que je vois. Par exemple, Osborne, pour moi, personne ne dit que c'était un prophète. Moi, je dis que c'était un prophète dans le sens que il apportait la parole de Dieu. Et Dieu confirmait ce qu'il disait par des signes, des prodiges et des miracles évidents. Pas des machins vaseux, vous savez... Ah oui, non, mais comprenez, là j'ai donné une date, mais le Seigneur c'était juste pour vous éprouver, pour voir si vous avez la foi. Et comme vous n'avez pas la foi, eh ben alors, voilà, maintenant vous êtes des incrédules. Non mais c'est quoi ce cirque? Les gens, enfin, il faut être sensé. C'est simple de reconnaître qui est un serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Ce n'est pas très compliqué. Alors nous avons appris que des actes de foi simples, comme l'étude des Écritures, c'est un acte de foi simple, le jeûne régulier, c'est un acte de foi simple, la prière sincère, boire le sang de Jésus, manger le corps de Jésus, semer la dîme, c'est-à-dire, faut encore préciser, la dîme c'est le dixième du revenu, c'est pas ce qu'on veut. Hein? Voilà. Tout ça, ça creuse en profondeur notre puits de force spirituelle. Tous ces actes creusent en nous un puits de force spirituelle dans lequel nous allons pouvoir aller puiser. Et ce que nous trouvons dans ce puits de force spirituelle, c'est justement la force qui nous permet de répondre aux exigences de notre vie mortelle, ici-bas, pas seulement aux exigences de Dieu, mais aussi aux exigences de notre vie mortelle. C'est-à-dire que là, dans notre vie mortelle, on a des tas de choses qu'on doit absolument faire. Et si on ne les fait pas, par exemple, prendre soin de sa famille, c'est-à-dire des choses comme ça, vous voyez. Mais la force, elle nous vient d'où? Elle nous vient justement du fait d'avoir cultivé nos habitudes spirituelles d'actes de foi. Il nous faut compter avec le temps. Toujours. Ces choses à créer doivent devenir nos habitudes. Et les habitudes ne se créent pas en 2 secondes. Il faut que vous persévériez. Actes des Apôtres, chapitre 2. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire qu'ils écoutaient régulièrement les prédications des envoyés de Dieu. Apôtres, ça veut dire envoyés. Si vous ne croyez pas que je suis un envoyé de Dieu, mais venez pas m'écouter régulièrement, allez écouter d'autres. Il y en a ceux qui vous plaisent, ceux qui vous correspondent. Mais ça doit être régulier. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans quoi aussi? Dans la communion fraternelle.
Tous les vendredis et tous les dimanches.
Non. Ils étaient chaque jour, ils mangeaient ensemble. Et ils persévéraient. Voilà. Ils persévéraient aussi dans la Sainte Cène, le pain et le vin. Enfin bon, toutes ces choses-là, vous les connaissez, c'est écrit, c'est tout simple. Et c'est grâce à ces actes répétés que nous vient la force dynamique. Et bénéfique pour nous, déjà premièrement, et puis ensuite pour notre famille, et puis ensuite pour tous ceux qui nous côtoient, et en particulier pour ceux qui nous aiment. Il faut être logique, si on n'est pas fort, on ne peut pas donner de la force à notre famille. Si, j'ai encore passé pour un charnel, mais comme le disait Saint Coluche, si t'as pas 100 balles, tu peux pas donner 100 balles. Si t'as pas la force, tu peux pas donner la force. Tu dois l'avoir. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, il nous faut créer ces habitudes, cette discipline. Et lorsque les difficultés arrivent, eh bien, on est enraciné en Christ. Et on a un puits dans lequel on peut aller pour trouver ce dont on a besoin sur le moment. Et les difficultés, il y en a toujours, quand c'est fini avec une, il y en a une autre qui arrive, et des fois même il y en a 2 ensemble, ou 3, ça dépend de la force que vous avez, parce que plus vous avez de force, plus vous allez avoir de problèmes. C'est obligé, parce que c'est la loi de l'équilibre. Quelqu'un qui est faiblard, il va avoir des épreuves de faiblard, puisqu'on n'est jamais tenté au-delà de nos forces. Alors un faiblard, alors il y en a plein qui disent, « Ah oui, mais moi je préfère pas être fort, alors comme ça, je n'ai pas des grosses épreuves. » Malhonnête. Nous devons être forts pour glorifier notre Dieu, d'accord? Et quand on est fort, alors Dieu nous envoie des épreuves de plus en plus fortes pour qu'on puisse justement les vaincre et être les meilleurs. On doit être les meilleurs. On ne doit pas être un minable. Et on doit être les meilleurs pour glorifier notre Dieu. Alors évidemment, quand on glorifie Dieu, il se trouve toujours des esprits chagrins pour dire « Oh oui, mais tu te vantes, tu te glorifies. » Non, je ne me glorifie pas. Mais je rends témoignage que Dieu se glorifie au travers de mon ministère et je me glorifie en Dieu qui se manifeste dans mon ministère. Amen. Oui. Et puis quand l'autre vient me dire que je fais des collectes d'argent pour aller à l'hôtel avec ma smala, C'est ça qui m'écrit l'autre en douille. Pardon ! Pardon ! Combien d'aveugles ont retrouvé la vue ? Combien de sourds ont entendu ? Ceux qui étaient avec moi, Masmala, vous l'avez vu ? Bon, alors, qui c'est qui se trouve sous une condamnation maintenant ? Et ce sont des abrutis, ils sont bêtes comme leurs pieds, et ils se permettent d'insulter les serviteurs de Dieu, ils sont... Non, mon Dieu, protège-nous de ces gens, une vengeance. De toute façon, on ne les changera pas, ils resteront toujours comme ça. Toujours comme ça. Ils sont nés pour... Et on dirait qu'il y a la moitié du monde qui est écrite sur le mur et l'autre moitié. Et alors, quand on... Quand des difficultés arrivent, on a ce qu'il nous faut pour pouvoir nous en sortir. On n'est pas ballotté, tout ça, de gauche et de droite. On est solidement ancré en Jésus-Christ, l'âme affermie, parce qu'on sait qui resserre et on voit que le Seigneur est avec nous et qu'il nous approuve et qu'il nous bénit et qu'il continue. Et alors on est content, alors on veut faire participer les autres à cette bénédiction, alors on en parle. Et puis, comme disait Lafayette, Michel Técharnel, tu cites Coluche, alors tu cites Lafayette, mais ils ne sont pas dans la Bible, ces gens. Lafayette disait « qui m'aime me suivent », ce qui veut dire « ceux qui m'aiment pas, foutez le camp ». C'est vrai, non ? C'est vrai. Notre assurance est que nous savons que Dieu supporte notre faiblesse. Ça, c'est formidable. Quand on a cette discipline dans la prière, la lecture de la Bible, la Sainte Cène et toutes ces choses, on acquiert cette assurance que Dieu supporte nos faiblesses. Beaucoup de gens sont dans la confusion parce qu'ils n'ont pas cette assurance et se comportent comme des vers de terre sur cette terre, toujours en train de se frapper la poitrine et en train de supplier Dieu de les pardonner alors qu'il l'a déjà fait il y a 2000 ans et ils se comportent comme... Ils glorifient pas Dieu par leur comportement. Dieu en a marre de voir ces mendiants tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il nous a déjà tout donné en Jésus-Christ, c'est à nous d'agir avec cohérence pour recevoir ce qu'il nous donne. Si je te tends quelque chose en te disant « tiens, je te le donne », tu peux dire « merci, tout ce que tu veux », mais tant que tu ne prends pas ce que je te donne, tu ne l'as pas. Et le pardon, il te l'a donné, tu le crois. Et puis, tu as une grande assurance que Dieu supporte tes faiblesses et t'aide à faire des progrès justement dans ces moments que tu as d'autodiscipline avec ton Seigneur. Alors, nous pouvons aller à lui pour qu'il augmente notre joie dans les moments où on est un peu abattu, parce que ça arrive, et nous savons qu'avec le temps, eh bien, de toute façon, toutes choses concourront à ceux qui aiment Dieu. De toute façon. Alors, pourquoi est-ce qu'on va s'inquiéter ? À quoi ça sert ? À rien du tout. À rien du tout. Vous savez, tous les chrétiens ont à peu près les mêmes problèmes. Parfois, c'est dans le couple. Parfois, c'est des difficultés pour se maintenir dans un équilibre avec leur vie professionnelle, leur vie de famille, leur vie d'église. Parfois, ça peut être un problème d'emploi. Maintenant, de plus en plus, j'entends des confessions à ce sujet-là, de plus en plus de chrétiens ont des problèmes avec la pornographie. Voilà, c'est une nouvelle façon, parce que maintenant, il y a Internet et toutes ces cochonneries qui circulent. Et parfois ça peut être un problème de paix intérieure par rapport à une règle de l'église, une règle de la communauté ou une doctrine qui est mal comprise, et puis ça peut faire un problème. Bref, mon conseil pour vous ce matin, c'est de revenir aux pratiques spirituelles de base. La lecture de la Bible. Et pour nous, de la communauté, la lecture du livre de Mormon. Pour les frères et sœurs qui viennent sur Révélation Bible, eux, ils font comme ils veulent, mais nous, dans notre communauté, on sait ce que Dieu nous a donné. Le jeûne régulier, c'est aussi un excellent exercice spirituel. C'est quelque chose d'excellent. Je ne dis pas de faire des jeûnes d'Esther, sans boire et sans manger, comme font nos frères africains et nos sœurs africaines. Chaque année, il y en a des dizaines qui se retrouvent à l'hôpital aux urgences parce qu'ils font des problèmes rénaux avec ça. Ça, c'est de la stupidité. Non, mais par exemple, ne pas manger pendant une journée et puis l'argent qu'on aurait dépensé pour manger, ben, le donner à quelqu'un qui a faim. Voilà. Ça, c'est un jeûne qui est agréable, c'est partager son pain avec quelqu'un. Vous voyez ? Et c'est un exercice spirituel que Dieu approuve. Mais ça, ça devrait être normal. Enfin bon, voilà. Alors, le paiement de la dîme, donc du dixième du revenu, à l'église, à la communauté, parce qu'on doit donner aux pauvres, mais ça n'a rien à voir avec la dîme. La dîme, c'est géré par la maison du trésor de l'Éternel. Vous prenez Malachi chapitre 3, 10, et apportez à la maison du trésor, c'est-à-dire à la maison de Dieu. Et puis là, les distributions sont faites. On mettait au pied des apôtres qui distribuaient à chacun selon ses besoins. Et ce n'est pas à vous de décider. Là, la dîme, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est dans l'Église de Jésus-Christ. Tout ce que vous donnez à gauche, même si vous donnez plus, mais tant mieux, si vous avez les moyens, c'est bien, il faut donner, il faut aider les pauvres. Ça vous regarde. Mais la dîme, c'est à l'Église. Si vous ne donnez pas à l'Église, ben, lisez la Bible, vous allez voir. Oh oui, mais c'est pas biblique, la dîme, on n'est plus sous la loi. Ah bon, on n'est plus sous la loi? Ben, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Donc, débrouillez-vous avec ça. Et puis, il y a aussi ce qu'il est venu abolir, c'est les sacrifices. Hein, à des animaux, tout ça. Mais le reste, c'est pas aboli. Hein. Pourquoi il a aboli les sacrifices, à votre avis?
Je sais pas.
Il a aboli les sacrifices parce qu'il a été lui-même le sacrifice. Mais tout le reste, d'aimer, de pardonner, de pas voler, de pas mentir, de pas tuer, de toutes ces lois-là, toutes ces lois morales, toutes ces lois pratiques, comme la dîme. Comment voulez-vous qu'une église tourne s'il n'y a pas de dîme? Comment le Saint-Esprit peut faire? Ouais, il est où le Saint-Esprit?
Il est en moi.
Bon, ben alors voilà. T'as pas compris? Bon, alors, si tu n'as pas compris, la surveillante est là pour l'expliquer. Dis que tu as compris, tu n'as pas compris, le tout n'est pas d'avoir compris, mais laissez croire qu'on a compris. Si j'avais compris, tu n'avais pas compris, à présent nous ne serions pas pris. Tu as compris? Non? Bah tant pis. Ça, c'est une petite tirade de Camélia dans Maman spirituelle qui répétait toujours ça quand elle en avait marre d'expliquer aux gens qui faisaient semblant de ne pas comprendre. Nous devons donner aux pauvres, ça c'est en plus, c'est normal. Et puis, il y a aussi les services que vous rendez à la communauté. Ça, c'est des choses, c'est des habitudes, c'est des choses, c'est répétitif, je sais, c'est répétitif. Oh, c'est répétitif. Nos sœurs nous font à manger tous les jours. C'est répétitif, non? Vous n'aimez pas aller à table? Vous n'aimez pas manger? Pourtant, c'est répétitif. Mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Donc, si vous ne faites pas les choses d'une façon répétitive, mais ça ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, chacun à sa place, faisant les choses qu'il doit faire, rendant les services dans l'Église. Souvent, les chrétiens m'écrivent et me disent, mais frère Michel, je sais bien que toutes ces choses sont bonnes, tu nous les dis, tu nous les rabâches, on entend régulièrement, tu reviens sur ce sujet, mais je pense que vous ne me comprenez pas. Quel rapport y a-t-il entre ces choses et les problèmes que je rencontre? C'est une question qui vient souvent, hein? Souvent. Eh bien, laissez-moi vous dire que je connais beaucoup de chrétiens et je pense qu'il faut que je vous donne cette assurance, puisque vous devez faire confiance à Dieu pour être affermi, mais pour réussir, vous devez faire confiance aux serviteurs de Dieu. Ben, je vous donne cette parole. Je peux vous assurer que si vous vous appliquez à vous discipliner réellement à faire, à obéir dans ces domaines-là, qui semblent simples, répétitifs, peut-être ennuyeux, eh bien vous allez recevoir une force qui surpasse tous les actes d'obéissance et de soumission eux-mêmes. Mais il faut le faire dans le temps, pas seulement une semaine, ça suffit pas. Dieu veut voir plus. Une semaine, ce n'est pas suffisant. Ouais, alors tu me dis de jeûner une semaine. Non, je dis pas ça. Je dis que pendant la semaine, tu peux jeûner un jour. Et puis fais-le pendant une année. Tu verras le résultat. La dîme, fais-le, donne-le régulièrement. La prière, fais, et une heure particulière où tu fais ta prière réellement dans un endroit privilégié pour ça. Quand vous mangez où? À table. Quand vous allez aux toilettes, vous faites tout sur la même table? Non, il y a un endroit pour ça. Il y a des endroits pour tout et il y a un endroit pour prier. Si vous n'avez pas un endroit pour prier, il y a quelque chose qui ne joue pas. Vous devez avoir un endroit spécial pour prier. Ça a toujours été comme ça. Et un moment aussi pour prier. Parce qu'on est dans le temps. Alors c'est vrai que ça peut nous sembler difficile, mais ça c'est la chair qui nous dit que c'est difficile. La Bible nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alors si votre chair vous dit que c'est difficile, dites à votre chair de se taire. Et si elle ne veut pas se taire, vous lui dites au nom de Jésus, tais-toi. Ça n'est pas pénible. Si la Bible dit que ça n'est pas pénible, ça n'est pas pénible. Ah, mais on voit bien que tu connais. Tais-toi, au nom de Jésus. Si la Bible dit de le faire, c'est que c'est bon pour nous, mes frères et sœurs. C'est bon pour nous. Et les solutions aux grands problèmes compliqués que vous rencontrez, vous allez voir comment ça va glisser, comment le Seigneur va arranger les choses. Il y a un rapport. Les actes de foi, même lorsqu'ils semblent être insignifiants, ont un rapport avec nos problèmes. Parce que ça fait partie de la vie. C'est un tout. Il n'y a pas vos problèmes dans un coin, votre travail dans un coin, votre famille dans un coin, votre croyance dans un autre. Non, ça fait partie d'un tout. Et si dans ce tout, là je vois il y a un puzzle pas loin de moi, là à côté, eh bien, s'il manque une pièce, c'est la seule chose que je vais voir, c'est qu'il manque une pièce. Il me dit, oui, Michel, t'as un casse-pied de perfectionniste et tout. D'accord. Les petits actes de foi répétitifs et disciplinés nous sont bénéfiques, mes frères et sœurs, dans tous les aspects de notre vie, parce que ça touche à tout. C'est comme quand la Bible dit quand un membre souffre, tous les autres souffrent. Eh bien, quand ces choses sont faites, tout le reste en bénéficie. C'est la même chose parce que ça fait partie d'un tout. Souvenez-vous Naaman. Vous vous rappelez de Naaman ? Naaman, c'était le chef de l'armée syrienne. C'était un homme fort, vaillant, formidable, mais lépreux. Il avait une tare, comme tout le monde a une tare. C'est quelque chose, un problème grave, machin, ça. Il y avait une lèpre. Il y avait une lèpre. Une saleté, moi j'ai vu des lépreux, c'est terrible. Alors, une de ces boniches, je fais exprès de dire boniche pour vous choquer un peu, une de ces servantes, ça passe mieux, hein, une de ces servantes lui parle d'un prophète juif qui pourrait le guérir. Un juif? Mais, ah bon? Mais il est juif, mais sa famille aussi est juive. Surtout juif. Naaman entreprend alors le voyage pour rencontrer ce prophète juif. Et il est escorté, la Bible nous dit, par ses serviteurs et par des soldats qui sont avec lui. Et puis il a pris des cadeaux parce que c'est un homme intelligent. Il s'est dit, si je suis guéri, ben, je vais lui faire un cadeau à ce bonhomme. C'est la moindre des choses plutôt que d'envoyer des insultes. Non ? Voilà. Un cadeau. C'est gentil. Ça fait plaisir. Alors, il est intelligent, ce Naaman, ce Syrien d'il y a plusieurs milliers d'années en arrière. Il vivait pour le 21e siècle, on pourrait être civilisé. Il arrive chez Élisée. Je suis un petit peu en colère, hein, ça se sent, hein. Il m'a foutu en rogne, ce pauvre type, ce matin. Il arrive chez Élisée, le serviteur d'Élisée, qui lui parle, même pas Élisée. Élisée, il reste dans sa tente, en train de siroter son thé, tranquille, pas se déranger pour un Syrien. Ça. C'était pour le mettre à l'épreuve. Et le serviteur d'Élisée informe Naaman de ce qu'il doit faire, quel est le commandement du Seigneur. Ben, il faut que tu ailles te tremper 7 fois dans le Jourdain. Il fait tout ce voyage pour entendre une bêtise pareille de la part de ce grouillot de service. Moi, je venais voir un prophète assis sur un trône avec une auréole. Je ne sais pas ce qu'il s'imaginait. Je vous ai bien baigné dans mon fleuve, chez moi, dans mon pays. Puis il commence à discuter, puis il est vexé. Il dit, c'est pas possible. Ça l'humilie, même devant ses serviteurs, parce que normalement, il ne s'attendait pas, devant les serviteurs, en plus, à être humilié, que de ne pas être reçu. Et c'est un truc tellement bête qu'il me demande de faire. Mais c'est idiot, c'est pas logique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la magie dans ce fleuve. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on se taille, on fout le camp. Il est offusqué. Bref, voilà qu'il est fâché. Mais ses serviteurs l'abordent calmement. Vous savez, mon bon maître, vous avez une poussière. Et il lui parle avec beaucoup de sagesse. Ils enrobent ça avec beaucoup de confiture, n'est-ce pas? Parce que C'était Naaman, le grand Naaman, qui avait le plus beau chien du monde. Grand Naaman, n'est-ce pas? Alors, et il vient vers, maître, si tu avais demandé de faire une chose difficile, tu ne l'aurais pas fait? Et Naaman dit, oui. Alors, pourquoi pas faire ça? C'est pas compliqué. Puis si ça marche, c'est tout bénéfice, c'est génial. Enfin, ils sont logiques. Naaman, ça le calme. Et puis, peut-être encore quelques doutes, mais enfin bon, il descend au Jourdain. Il fait un pas, deux pas, trois pas, il se regarde, il se passe rien. Il se plonge une fois, rien, deux fois, rien. C'est long, sept fois. Moi, j'aurais été Élisée, j'aurais dit 36 fois. Non, sept fois, il était gentil encore, Élisée. 400 fois. Et il se plonge donc sept fois dans le Jourdain. Et il se trouve miraculeusement guéri. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance au prophète. Il a réussi. L'obéissance d'un grand chef à une boniche étrangère, parce que sa servante était une étrangère. Ensuite, l'obéissance au serviteur du prophète invisible, caché dans sa tente en train de siroter son thé, manger ses cacahuètes sans sel. Et puis ensuite, à ses propres serviteurs, que de boniches, que de serviteurs, que de gens simples. C'était bien fait pour lui. Et là, elle avait besoin. Il fallait qu'il obéisse. L'obéissance à ce que je vous dis ne donnera des résultats qu'après votre pratique de votre mise à l'épreuve. Tant que vous ne faites pas ce que je vous dis, zéro. Vous ne voulez pas me croire? Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? Moi, je sais en qui je crois. Je crois en Dieu et j'ai confiance en Dieu. Et je sais quel prophète j'écoute. Et voilà pourquoi je réussis. C'est tout. Maintenant, vous, à vous de choisir. Oh, moi, je crois en Dieu. Mais à quel prophète tu crois? À quel prophète tu fais confiance? Ça a la différence. Est-ce que tu fais ce qu'il te dit? Tu es venu m'écouter? Fais ce que je te dis. Dans le livre de la perle de Grand Prix, il y a un texte qui se trouve dans Moïse au chapitre 5 et versets 4 à 9. Je vais vous le lire. 5, 4 à 9. Et Adam et Ève, sa femme, invoquèrent le nom du Seigneur et ils entendirent la voix du Seigneur venant de la direction du jardin d'Éden, leur parlant, mais ils ne le virent pas, car ils étaient exclus de sa présence. Il leur donna des commandements selon lesquels ils devaient adorer le Seigneur leur Dieu et offrir les premiers-nés de leur troupeau en offrande au Seigneur. Et Adam obéit au commandement du Seigneur. Et après de nombreux jours, un ange du Seigneur apparut à Adam et lui dit, « Pourquoi offres-tu des sacrifices au Seigneur ?» Et Adam lui dit, « Je ne le sais, si ce n'est que le Seigneur me l'a commandé. » Et alors l'ange parla, disant, « C'est une similitude du sacrifice du Fils unique du Père, qui est plein de grâce et de vérité. C'est pourquoi tu feras tout ce que tu fais au nom du Fils, et tu te repentiras et invoqueras dorénavant Dieu au nom du Fils. » Ce jour-là, le Saint-Esprit, qui rend témoignage du Père et du Fils, descendit sur Adam, disant, « Je suis le Fils unique du Père, depuis le commencement, dorénavant et à jamais, afin que de même que tu es tombé, tu puisses être racheté, ainsi que toute l'humanité, tous ceux qui le veulent. » Ah, comment le Fils, tout ça? Mais le sacrifice de Jésus avait déjà eu lieu, avant Adam. La Bible nous dit que Jésus, l'agneau de Dieu, a été immolé avant la fondation du monde. Donc le sacrifice de Jésus était suffisant. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui croient. Et il était demandé à Adam de faire un sacrifice qui typifiait, qui représentait ce sacrifice-là, avant que Jésus vienne le faire réellement dans la chair. Vous y croyez pas? Ça m'est complètement égal. J'essaie de vous parler pour vous informer, pour que vous sachiez, afin que vous appreniez et que vous grandissiez. Mais si vous ne voulez pas grandir, c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Vous connaissez, hein? C'est charnel, maintenant, ça y est, c'est les deux niveaux là, que je cite. Ils ne sont pas dans la Bible, là. Comment ils s'appellent déjà?
Aspasie.
C'est vous qui voyez. Moi, je sais ce que je vois. Je vois que mon Dieu est grand. Je fais confiance dans ce qu'il dit dans sa parole. J'écoute, je lis, je mets en pratique tout ce que je trouve. Et quand je trouve quelque chose de nouveau à faire, je le fais. Et puis, j'écoute un prophète de Dieu. Et j'ai confiance. Et je fais ce qu'il dit. Et je réussis. Alors, d'un côté, je suis affermi. Puis, d'autre côté, je réussis. Oui, Michel, t'es orgueilleux. Oui, je suis très orgueilleux de mon Dieu qui m'a donné la bonne connaissance afin d'avoir une bonne vie. Paul disait à peu près ça aussi, hein, en disant si je m'enorgueillis, c'est du nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi? Parce que par le nom de Jésus-Christ, tout est possible. Alors vous voyez, l'explication, elle n'est venue à Adam qu'après qu'Adam ait obéi. Après qu'il ait montré son engagement à obéir au Seigneur pendant de nombreux jours. J'aime bien cet écrit. Après de nombreux jours, l'ange est venu pour lui dire, mais tu fais quoi? À quoi ça sert? Pourquoi tu fais ça? Il a agi sans savoir pourquoi il devait obéir en offrant des sacrifices. Il l'a fait sans savoir pourquoi. Il ne s'est pas permis de dire à Dieu, oui, mais pourquoi? Vous savez pourquoi il ne s'est pas permis? Moi, je vais vous le dire. Parce qu'il venait de gaffer vachement dans le jardin d'Éden. Il avait été viré, lui et sa bonne femme, du jardin d'Éden parce qu'ils n'avaient pas obéi. Alors quand Dieu donne un commandement, ben il n'a pas l'outrecuidance et le manque d'éducation de dire à Dieu, oui mais pourquoi? Je comprends pas bien, si tu m'expliques, peut-être je ferai, mais il faut d'abord que je comprenne bien. Non, il n'est pas bête comme ça, il est humble, lui. Il dit, ok Seigneur, tu le dis, je le fais, je comprends rien, mais je le fais. D'accord? C'est ça la position du chrétien. C'est ça la position du chrétien. Je ne comprends rien, mais je fais, puisque Dieu dit de faire, je fais. Puisque le prophète dit de faire, je fais. Amen. Dieu, rarement, il parle, il explique à l'avance. Vous voyez, mes frères et sœurs, Dieu nous bénit toujours pour notre obéissance constante. Il faut que ça soit constant, pas par à-coup comme ça, un petit coup j'obéis, pas. Constant à son évangile, et il nous bénit aussi par rapport à notre loyauté, à sa communauté, à son église. Son église, c'est pas un club humain. Comment est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête, les chrétiens, que son église, c'est son église? C'est quelque chose de sacré. On n'a pas à discuter. Il a placé des ministres. Pourquoi faire? Pour vous chatouiller les ailes? Pour vous flatter? Pour vous brosser dans le sens du poil? Non. Pour vous dire les choses qui doivent être faites. Et aussi pour vous consoler, vous exhorter, vous bénir. C'est tout ça. Ça fait un tout. Mais les chrétiens, non. Je ne veux pas suivre un homme, moi. Ah non, moi je suis le Seigneur, dans le sens de suivre. Hein, je suis en train de suivre le Seigneur, je ne veux pas suivre un homme. Hein, comme il y en avait qui avait dit à Philippe et Marie-Claire, oui, vous êtes idolâtres, vous idolâtrez Michel Janton. Aïe. La Bible dit, dans 2 Chroniques 20:20, si tu veux être affermi, tu fais confiance à Dieu. Si tu veux réussir, tu fais confiance à ses serviteurs, les prophètes. C'est tout. Ça se discute même pas. Alors, il dit rarement à l'avance quand Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Mais il le fait toujours. Il ne nous donne pas d'emblée la vision d'ensemble. Jamais. Ou rarement. Et c'est là que justement notre foi, notre espérance et notre amour pour Jésus doivent se manifester. Sinon, à quoi ça sert d'avoir de la foi? Si on sait tout, s'il y a toutes les explications, il n'y a plus besoin de foi. Quand l'autre jour, on était là, c'était dimanche passé, et voilà que je vais pour prier pour Élise, pour qu'elle soit baptisée dans le Saint-Esprit, et pour Lucas, pour qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu une voix qui disait, Michel, va prier. Non, mais je suis inspiré par Dieu, je sais comment Dieu me parle, et je fais les choses surnaturellement. J'ai été vers les jeunes, j'ai imposé les mains au nom de Jésus, et ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, et ils ont parlé en langue, et ils parlent encore en langue. Amen. Voilà. C'est comme ça, avec Dieu, c'est comme ça, mais il ne nous dit pas de façon, avec petit A, petit B, petit C, non. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On doit avoir la foi, manifester la foi. Si j'avais été puis que c'était rien passé. Quand j'ai prié pour les trois aveugles au mois de mai, et si c'était rien passé? Mais c'est pas rien passé, ils ont retrouvé la vue. Pourquoi? Moi, j'y suis allé par la foi. Est-ce que c'est moi qui les ai guéris? Les gardiens vont dire, non, c'est Jésus. La Bible dit, allez, guérissez les malades. Alors, c'est qui l'a guéri? C'est qui les a guéris? D'après les chrétiens, ce qu'ils disent, ou d'après ce que la Bible dit? Oh, mais Michel, t'es en train de dire, t'as guéri les aveugles? Au nom de Jésus, oui. De la part de Jésus, oui. Simplement par mon acte de foi. Si j'étais resté à ma place en regardant ces aveugles des endroits, ces pauvres gens, je ne vais pas être à leur place. Oh, ça va être affreux. Oh là, Seigneur bénis-les. Mais ce serait rien passé. Mais j'ai bougé mon gros cul, puis je suis allé prier pour eux. Vous voyez, mes frères et sœurs, j'ai manifesté la foi. Et c'est ça que vous devez faire. Manifester la foi, même si c'est dangereux, même si ça paraît bête, même si ça paraît impossible. Naaman, finalement, il a réfléchi grâce à ses serviteurs et ses servantes. Il en a fallu un paquet de serviteurs et de servantes, mais il a quand même obéi finalement et il a été béni. Eh bien, si vous voulez être béni, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Ouh, en fait, tout au travers de la Bible, par beaucoup d'exemples, on s'aperçoit qu'il faut qu'on lui fasse confiance d'abord et qu'on fasse confiance à ses serviteurs. Les choses, elles s'arrangent lorsque nous sommes fermes pendant l'épreuve de notre foi. Mais on ne peut pas être ferme si déjà on n'a pas un acquis derrière. Un sportif, Stéphane, quand il montait sur la scène pour gagner le prix dans le monde du bodybuilding, il n'arrivait pas comme ça. Il y avait des jours et des mois d'entraînement, d'alimentation très sévère, de sacrifices. Et puis, alors, ils pouvaient monter sur la scène. Les gens se trouvent sur la scène devant des problèmes terribles, et puis ils pensent que simplement par une prière, non, Jésus, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord avoir un acquis derrière, il faut avoir travaillé derrière, ça, sur sa propre âme, sur son esprit, sur son corps, maintenant toutes ces choses-là, dans la discipline au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, aussi difficile que ce soit à supporter votre épreuve, tenez ferme. Aussi lent que la réponse vient à venir, restez ferme, obéissant à Dieu encore et encore, et à ses serviteurs encore et encore et encore. Bon, je ne vous parle pas d'obéir aveuglément, mais de façon intelligente. Par exemple, Naaman, c'était intelligent. Il a obéi intelligemment. Le paralytique qui était au portique, là, au temple, Pierre et, je crois, Jean, passent devant lui, et dit, on n'a ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ben, il s'est levé, pourquoi? Parce qu'il était intelligent. Parce qu'il était intelligent. Il a obéi parce qu'il était intelligent. Il avait quoi à perdre? Vous voyez, mes frères et sœurs, ce n'est qu'après cela que nous recevrons les réponses divines auxquelles nous aspirons, après un acte de foi. C'est une promesse divine, mes frères et sœurs, je dirais même plus, c'est une loi divine. Comme la loi de la pesanteur est une loi divine, ben voilà, c'est une loi divine. C'est seulement lorsque nous aurons prouvé que nous sommes disposés à faire ce que le Seigneur nous demande, sans exiger de connaître ni le quand, ni le pourquoi, ni le comment, que nous récolterons les récompenses de notre foi, de notre diligence à bien faire, de notre patience, de notre longanimité, de toutes ces choses-là. Prouver cela à qui? À Dieu? Mais non! Dieu, il sait tout d'avance, il sait très bien. Il savait très bien si Naaman allait se plonger ou pas. Il regardait, c'est tout. Est-ce que les serviteurs savaient? Non, ils ne savaient pas. C'est eux qui ont appris. C'est eux qui ont eu la preuve que Naaman avait la foi. Vous comprenez? Ben, mes frères et sœurs, quand vous obéissez, vous prouvez aux gens qui vous regardent que vous avez la foi. Pas à Dieu, ils s'en foutent, il sait déjà tout. Mais vous prouvez aux gens. Vous prouvez aux démons qui vous regardent. Vous prouvez aux anges qui ne savent pas tout. Que vous êtes soumis à Dieu et à ses serviteurs, les prophètes. Et puis vous vous prouvez aussi à vous-même, waouh, je l'ai fait.
Mais j'ai été orgueilleux.
Ouais, je suis très fier d'avoir fait. Mais je recommencerai à le faire. Pendant que vous critiquerez un certain, une petite minorité. Moi, j'aime faire. Parler, c'est bien, je sais parler, mais il faut faire les choses, il faut obéir. Il a prouvé aux anges invisibles, aux démons. Il a même prouvé à sa lèpre. Parce que la maladie est une vie. Il a lutté contre la vie de cette maladie. Il a prouvé à tous qu'il était disposé à faire ce que le Seigneur demande. Il n'avait pas besoin de prouver cela à Dieu. Pas du tout. Ça, Dieu n'a pas besoin de... Quand il nous met à l'épreuve, c'est pour que nous, on sache où on en est. Eh bien, c'est comme ça pour nous, aujourd'hui, au 21e siècle. Dieu sait si tu vas obéir ou pas. Dieu le sait. Et c'est à moi, à votre famille, et c'est à ceux qui vous voient, de prouver que vous avez la foi, c'est tout. La véritable obéissance au Seigneur, c'est l'acceptation des commandements de Dieu au travers de ses serviteurs. Dieu ne va pas vous dire dans la Bible si vous devez acheter une deux chevaux ou une jaguar. C'est ses serviteurs qui vont vous le dire. Par exemple, si vous me demandez, est-ce qu'il faut que j'achète une deux chevaux ou une jaguar? Je veux dire, la deux chevaux est moins belle que la jaguar. Mais est-ce que tu as les moyens? Oh, j'ai la foi. Ouais, mais pour avoir la foi... Je me rappelle de ce frère qui disait, moi je veux une Porsche, Dieu m'a promis une Porsche, je veux avoir une Porsche. Je dis, bah, c'est super, c'est bien. Il ne travaillait pas, c'était un culturiste. Il ne travaillait pas, et il voulait une Porsche rouge. Alors je dis, mais tu vas faire comment? Ben, tu vas venir avec moi, puis tu vas parler au vendeur. Ah, je dis, là, bon, c'est... Je dis, tu peux lui faire voir, mon frère. C'est ta foi, pas la mienne. Vous voyez, il faut être logique, il faut être intelligent. Un serviteur de Dieu ne va pas vous dire de faire des choses imbéciles. Tout est possible à celui qui croit. Vraiment? Marche au plafond. Vous voyez, il faut être intelligent. Un serviteur de Dieu, envoyé de Dieu, ne vous dira pas des choses d'idiotes. Jamais. Donc, si vous dites quelque chose d'idiot, c'est que c'est un idiot. Voilà, c'est tout. C'est pas un serviteur de Dieu. On va lire Josué 24, 15. Où il est dit, mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux de vos, que vos ancêtres servaient, hein, de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Voilà. Ben, c'est le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis dégagé. Je vous ai dit les choses. Et je ne veux pas pleurnicher après. Jonas, il était dire les choses qu'il fallait à Ninive. Vous savez que Ninive, c'est Mossoul. Vous savez ça?
Oui.
Ouais. Mossoul, c'est Ninive. Eh bien, il est allé à Mossoul et il a dit. Et puis les gens se sont repentis. Et après, il a dit, alors maintenant, j'ai l'air de quoi? Je dis que Dieu elle était en colère. Puis, ouais. Non, les serviteurs de Dieu, ils ont aussi des comptes à rendre. Il faut qu'ils soient clairs et nets, il faut qu'ils soient cohérents. Moi, que vous obéissiez ou que vous obéissiez pas, moi, ça m'était bien. Ce que je dois faire, c'est vous dire les choses. Je vous l'ai dit. Puis voilà, c'est tout. Frères et sœurs, nous montrons notre détermination à servir le Seigneur en accomplissant avec fidélité les actes quotidiens de dévotion. Pour terminer, on va lire Proverbe 3, 5, 6. Proverbe 3, 5, 6. Venez vous chercher. Je tiens à vous dire quand même que notre frère Stéphane, après s'être entraîné des années, à peu près 4 heures par jour, à manger je ne sais pas combien de kilos d'œufs, de bananes, de machins, de poissons et de steaks, il a quand même gagné le premier prix de bodybuilding. Il est champion de Paris. Alors, pour embêter Melchior, machin, non seulement on a le plus beau chien, mais on a le plus beau pianiste de toutes les églises de France. J'aime bien y axer, j'aime bien accentuer. Ça me fait rire. Sinon, je pleure. Hein, sinon, je pleure. Je me dis, oh là là, mais que, pourquoi j'ai choqué un frère, c'est affreux, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne me reproche rien. Je ne me laisse juger par personne. Par contre, j'ai le droit d'en rire. Proverbe, comme je vous ai dit, Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Pourquoi il dit qu'il ne faut pas que tu te confies dans ton intelligence? Parce qu'il sait qu'elle est très... Il faut que tu apprennes l'intelligence qui vient de Dieu. Et c'est à ça que servent les serviteurs de Dieu qui prêchent. Bah oui, on peut aussi prêcher des niaiseries. Moi, je vous prêche des choses pratiques. Et j'espère que vous en avez conscience et que vous dites, bon, maintenant, ça y est, j'ai compris, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque, je veux faire pour creuser mon puits afin que j'ai la force nécessaire. Et tout. Vous voyez, il y a une promesse qui est attachée à ça. Dieu promet qu'il guidera tes pas. Dieu promet, pour qu'il puisse guider tes pas, il faut que tu avances. Si tu n'avances pas, comment veux-tu qu'il guide tes pas? Tu ne fais pas de pas. Tu ne fais pas de pas.
C'est quoi cette danse? C'est le sans pas. C'est Gotener, ça. J'ai rencontré Gotener. J'ai dit, j'aime bien vos chansons. Il dit, et puis vous êtes pasteur et vous avez bien mes chansons? Je dis, oui, pas toutes, mais il y en a, elles sont un peu crues. Je dis, oui, mais il y en a que j'aime beaucoup. On était avec Lucas, tu te rappelles? C'était super. Mais t'avais offert quelque chose, je crois, un t-shirt. Ouais.
Si tu fais pas de pas, comment veux-tu que Dieu dirige tes pas?
Il ne peut pas diriger quelque chose puisqu'il n'y a pas. Il n'y a pas de pas. Mais si tu fais des pas, Dieu peut te pousser à gauche ou à droite pour que tes pas soient dirigés. Mais si tu fais rien, si tu n'obéis pas à ce que je te dis,
il n'y a pas de pas, il n'y a pas de pas, il ne peut pas diriger tes pas. Dieu promet qu'il va le faire, qu'il va diriger tes pas, il faut que tu avances avec confiance. Il connaît le chemin parce qu'il est lui-même le chemin. Voilà. Et vendredi, je vous parlais de Marie à Cana et de son ordre. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Il a dit, remplissez les vases d'eau. Eh bien, c'est ce que nous avons à faire. Il faut que vous vous remplissiez de l'eau. De l'eau, de la parole de Dieu. Il faut que vous vous en remplissiez. Si vous n'êtes pas rempli de l'eau de la parole, vous êtes rempli d'autre chose. De quoi? De la gnognotte. De la gnognotte. Vous aimez la gnognotte? Ah ben tant mieux, c'est bien, c'est votre façon de vivre, la gnognotte. C'est comme ça que je vous dis. C'est ce que nous avons à faire, à remplir les vases que nous sommes, des vases de terre, à les remplir avec l'eau de la parole. La parole de Dieu, c'est l'eau vivante, c'est ce dont nous avons besoin. Et puis, l'eau, parce que quand on prend la parole de Dieu, c'est que de l'eau, on lit, on dit, ouais, le serviteur de Dieu, il parle, c'est pas toujours très agréable, mais cette eau, si tu fais vraiment ça, si tu remplis vraiment ton vase, elle va se transformer en vin. Ça veut dire que ta vie, elle va changer, elle va prendre du goût. Non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Parce que si ta vie, c'est du vin, je viendrai plus facilement chez toi que si c'est de l'eau. Et si c'est du champagne, je préfère encore. Amen. Le meilleur. Dieu veut nous donner le meilleur. Il veut que tu sois la tête et non la queue. Tous ces versets, vous connaissez. Il veut pas que tu sois en bas, il veut que tu sois en haut. Croyez en Dieu. Faites confiance à ce qu'il dit selon 2 Chroniques 20-20. Faites tout ce qui a été dit au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci de m'avoir donné ces paroles et pardon d'avoir un petit peu crié au sujet de Machin Melchior. Et bénis-le, ce pauvre homme, il a besoin de comprendre des choses, il n'a pas saisi, je ne sais pas dans quelle église il va, mais ça ne va pas être terrible. Aide-le, Seigneur, et fais-lui comprendre les profondeurs. Merci Jésus de nous aider chacun et de permettre que nous puissions aller de l'avant et obtenir toujours de toi le meilleur pour te glorifier, afin que le monde voit qu'il y a une différence entre ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui te connaissent. Amen, Jésus. Amen. Bonne journée.